Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de nouveau sur le sort des migrants au Qatar. Ainsi, Amnesty International dénonce la délicate situation de certains d'entre eux, dont les contrats de travail ne sont pas respectés par les entreprises qui les emploient et qui, parfois, ne sont plus payés depuis des mois. Cela touche notamment des ouvriers venus du Népal, qui travaillent essentiellement dans le secteur de la construction. Une situation paradoxale, alors que le Qatar s'est engagé depuis 2 ans dans une réforme en profondeur de son code du travail, avec l'aide de l'OIT, l'agence spécialisée des Nations Unies. Les travailleurs népalais au Qatar, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Bonjour Tristan Brûlé.
Bonjour Éric Bataillon.
Chargé de recherche au CNRS, plus précisément au Centre d'études himalayennes. Tout d'abord, sait-on pourquoi il y a autant de travailleurs népalais au Qatar et depuis quand ?
Alors les Népalais au Qatar sont environ 350 000, les chiffres sont assez difficiles à obtenir. Les travailleurs népalais au Qatar sont arrivés à partir des années 90, en fait, au Qatar, par le biais des musulmans. Les premiers qui sont arrivés sont des musulmans qui ont été étudiés dans les écoles coraniques. Et puis à mesure que le Qatar s'est développé dans les années 90 et puis à partir surtout des années 2000, les flux ont été vraiment incessants. Alors, pourquoi ? Il y a 2 facteurs d'explication principaux, on pourrait dire. D'abord, il y a une diversification des flux de main-d'œuvre dans le Golfe, et au Qatar en particulier, à partir de la première guerre du Golfe, et une politique de modernisation du Qatar lancée à partir du milieu des années 90 par le père du souverain actuel. Ça, c'est les facteurs attractifs, je dirais, du Qatar. Et puis, au Népal, c'est conjugué une crise économique structurelle, qui touche le Népal depuis les années 50 ou 60, et une crise politique, à savoir la rébellion maoïste de 1996 à 2006, qui a fait que les départs ont été de plus en plus nombreux. Tout ça pour dire quand même dans un contexte où les migrations internationales de travail à partir du Népal sont pas un phénomène récent, puisque traditionnellement, depuis plusieurs générations, les Népalais vont travailler en Inde.
Alors, ce sont des travailleurs qui sont des hommes seuls ou ce sont des familles qui migrent ?
Alors, ce sont principalement des hommes seuls. Sur ces environ 350 000 travailleurs, on compterait une 20 000 de femmes et seulement 800 familles. Donc, ce sont en grande majorité des célibataires géographiques qui peuvent donc être mariés au Népal, mais qui se retrouvent tout seuls à travailler au Qatar.
Et qui font quel type de travail au Qatar, justement ?
Alors, les Népalais ont, dès le départ, occupé une niche qui est la plus basse, en fait. Donc, ils sont principalement manœuvres dans la construction et, je dirais, garçons de bureau, des emplois de service, mais largement peu qualifiés. Mais ce à quoi on assiste quand même depuis quelques années, c'est à une qualification progressive avec des programmes de formation au Népal, pour former des menuisiers, des électriciens, des gens qui parlent un peu anglais, etc. Donc des gens qui arrivent avec un bagage, des qualifications un peu plus élevées, qui leur permettent de s'élever un petit peu dans la hiérarchie de l'emploi au Qatar. Mais globalement, encore aujourd'hui, alors les chiffres sont difficiles à obtenir, mais environ 90% de ces hommes seuls sont des ouvriers.
Alors quel est l'intérêt pour eux de venir au Qatar, et quasiment d'ailleurs exclusivement au Qatar, plutôt que dans d'autres pays de la région, ou mieux, par exemple en Inde, qui est beaucoup plus proche.
Alors en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Népalais au Qatar, 350 000, mais il y en a quasiment autant aux Émirats Arabes Unis. Il y en a énormément aussi, il y en aurait 200 000 en Arabie Saoudite, une 50 000 à Bahreïn, à Koweït, il y en aurait peut-être 50 ou 60 000. Donc ils sont entre 1,5 million et 2 millions de travailleurs népalais dans le Golfe, plus à peu près le même nombre en Inde, très difficile à estimer, puisqu'il y a un système de libre circulation entre le Népal et l'Inde qui fait que c'est quasiment impossible de les compter. Alors l'intérêt pour les Népalais d'aller au Qatar par rapport à aller en Inde, c'était au départ, c'est que les salaires sont plus élevés. Donc ça, c'est vraiment un point de départ dans les années 90-2000. Les salaires sont plus élevés et normalement le paiement des salaires est plus régulier, etc. Donc c'est un moyen plus facile d'économiser, éventuellement de s'enrichir et d'arriver à un objectif qui dépasse juste la reproduction et le stade de la survie. Donc si on veut s'enrichir, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir acquérir de la terre, construire une nouvelle maison, etc., il vaut mieux aller dans le Golfe qu'aller en Inde. Cependant, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de renversement, et de plus en plus, les travailleurs népalais se posent la question de la validité d'aller travailler dans le Golfe, au Qatar en particulier, par rapport à l'Inde, où les conditions de travail sont à peu près équivalentes, les conditions de vie sont souvent meilleures, la proximité culturelle fait que les Népalais ont l'impression d'être quasiment chez eux en Inde, et puis ils peuvent retourner quand ils veulent au Népal, chose qui n'est pas possible de faire dans le système du sponsorship ou de la kafala tel qu'il existe dans le Golfe.
Alors justement, du côté du Qatar, quel est l'intérêt d'accueillir ces populations ? Alors vous avez dit que certains étaient de confession musulmane, mais je suppose que tous ne le sont pas. En plus, ils ont une culture certainement différente de celle du Qatar. Quel est l'intérêt pour le Qatar de les accueillir, ces travailleurs ?
L'intérêt, je pense qu'il est principalement économique en fait, hein, puisque dans l'échelle, comme j'ai dit, hein, c'est l'intégration des travailleurs népalais, c'est faite par le bas, et dans l'échelle des salaires, ce sont encore aujourd'hui, hein, les travailleurs népalais qui sont les moins bien payés. Donc dans le cadre de la modernisation de l'économie qatari, de lancement des grands travaux, même sans parler forcément de la Coupe du Monde, il y avait besoin d'une main d'œuvre nombreuse et peu cher, et donc c'est vraiment, je pense que un des intérêts du Qatar a été ça, de trouver cette manœuvre abondante, assez docile, et puis encore une fois, peu onéreuse. Et puis, il y avait cette histoire aussi de diversification des flux de main d'œuvre. En fait, le Qatar ne voulait pas uniquement dépendre, alors avant là, jusqu'en 1991, des travailleurs, je dirais, de la zone proche géographique, donc principalement palestiniens, égyptiens, jordaniens, etc. Et avec cette volonté de diversifier ces flux de main-d'œuvre, donc vers l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, et puis ensuite, un nouveau marché de la main-d'œuvre s'est ouvert, le Népal, qui a permis donc l'arrivée de ces milliers, centaines de milliers de travailleurs, encore une fois, peu chers et à la réputation extrêmement bonne.
Alors ces travailleurs qui occupent des emplois extrêmement peu qualifiés, en tout cas pour le moment, même si certains d'entre eux vont pouvoir accéder à des postes meilleurs. Où vivent-ils ? Comment se passe leur vie quotidienne à ces travailleurs étrangers ?
Alors ça, c'est un peu le point négatif, enfin même je vais dire, c'est même un point très négatif, c'est la question du traitement en fait de ces travailleurs immigrés, alors pas seulement népalais, mais bon là, puisque c'est le cas du Népal qui nous intéresse aujourd'hui, ces travailleurs sont logés en grande partie, hein, je crois que les chiffres sont 74% des travailleurs immigrés, pas seulement népalais, au Qatar, habitent dans ce qu'on appelle les labor camps. Donc ce sont ce qu'on appelle camps de travailleurs. Donc ce sont des logements qui sont situés dans des zones industrielles, industrial areas, qui sont loin des centres-villes et où sont reléguées un peu toutes les activités polluantes. C'est-à-dire qu'on a de la petite industrie, on a des garages, des ateliers, des parkings, et on a ces camps de travailleurs donc qui sont des logements pour travailleurs où, moi j'avais fait des calculs, j'avais habité dans un de ces camps où environ l'espace disponible par personne est à moins d'un mètre carré dans une chambre. Donc c'est 12 à 15 personnes dans des chambres de 20 mètres carrés et sur des lits doubles, quelquefois triples, etc. Donc les conditions de vie sont vraiment extrêmement problématiques qui conjuguent entassement, saleté et puis surtout relégation loin du Doha tel qu'on peut se l'imaginer et tel qu'on nous le présente souvent.
Alors justement, le Qatar peut apparaître à ses travailleurs comme un pays moderne, avec des centres commerciaux à visiter, des parcs où se promener. Est-ce qu'ils peuvent le faire vraiment ?
Alors ça, c'est vrai que dans ce désir de partir de la part des Népalais, il y a aussi ce désir de se confronter à une certaine modernité, même si la modernité, depuis 15 ans, elle arrive aussi au Népal et que quasiment tout le monde a un téléphone portable, etc. Mais il n'empêche que quand on arrive à Dubaï ou au Qatar, on peut être que assez émerveillé devant l'aspect grandiose des constructions, même si, encore une fois, c'est pas là où ils habitent. Alors, le problème, c'est que, non content d'être relégué dans ces zones industrielles, très souvent, il y a des politiques extrêmement restrictives en matière d'accès à l'espace, et notamment les vendredis, seul jour férié de la semaine, par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent les Family Day. Et donc, les Family Day, qui est en pratique dans les malls, les promenades au bord de la mer, les principaux parcs, consiste en fait en l'exclusion des célibataires. Donc on ne peut entrer dans ces espaces que si on est accompagné d'une famille. Alors, il y a plusieurs ONG qui ont fait des tests, et en fait, ce Family Day, c'est une politique qui cible quasiment exclusivement les célibataires d'Asie du Sud, donc pakistanais, indiens, bangladais, népalais, puisque si vous êtes arabe ou si vous êtes blanc, occidental, vous rentrez facilement dans ces espaces, tandis que si vous êtes deux amis népalais qui tentent d'aller dans un mall le vendredi, vous vous faites gentiment expulser. Donc, certes, la modernité, ils peuvent l'avoir, mais elle reste globalement inaccessible, aussi pour des raisons économiques. Il faut savoir que tout est cher au Qatar, alors que les salaires tels qu'ils sont définis par l'ambassade népalaise sont de 210 euros par mois, le salaire minimum pour un manœuvre est de 210 euros par mois, et que le Qatar vient d'imposer un salaire minimum inférieur à ce tarif-là. Donc, la vie est chère, la modernité est difficile à toucher autrement que du bout des yeux.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en compagnie de Tristan Brûlé, chargé de recherche au Centre d'études himalayennes du CNRS. Alors, l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022 a-t-elle changé la donne pour le pays et pour cette migration étrangère ?
Alors, un des effets, je pense, totalement inattendu de l'attribution de cette Coupe du Monde a été que, finalement, les médias du monde entier se sont penchés sur le Qatar, alors que l'émirat était peu connu, en dehors peut-être de certains cercles économiques, et ont commencé à s'intéresser aux conditions de travail des immigrés, des travailleurs immigrés. Et du coup, je pense que ça a plutôt un effet positif, le mettre en lumière les graves problèmes de mauvais traitement de toute cette main-d'œuvre qui, je le répète, est sans droit politique, sans droit syndical, sans droit de négociation, sans droit d'organisation, sans droit de changer de travail. Enfin, bon, on reparlera peut-être de ce système de la kafala. Mais donc, du coup, je pense que ça a quand même eu un effet positif, au moins que le monde entier s'intéresse à cette question. Ensuite, concernant les changements, on peut voir, même s'ils sont très lents et surtout à base d'effets d'annonce, mais on peut voir quand même une certaine évolution justement du droit du travail et du droit de résidence au Qatar, qui est sans doute lié à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022.
Alors justement, vous parliez de la kafala qui est omniprésente dans tous les pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, mais aussi les Émirats, etc. Or, le Qatar a normalement aboli la kafala en 2016. Est-ce la réalité ?
Alors,
rappelons ce que c'est que la kafala.
Alors, la kafala, c'est dit aussi système du sponsorship en anglais ou du parrainage en français. C'est une sorte de délégation de pouvoir de l'État envers ses concitoyens qui se porte garant, en fait, d'un travailleur migrant. Donc le garant, le sponsor ou le kafil en arabe, est responsable du migrant et lui donne le droit de travailler qui lui-même donne le droit de résidence. On ne peut pas avoir le droit de résidence sans avoir le droit de travailler. Mais il contrôle aussi ses mouvements, c'est-à-dire que le sponsor permet donc d'habiter au Qatar, permet d'avoir un certain travail et interdit ou permet à la personne qui a le travail de changer de travail. Dans les faits, en fait, lui restreint l'accès à un autre travail. On peut pas changer de travail dans le cadre du système de la kafala, sauf si on a l'accord de son sponsor. Chose qu'il donne rarement puisqu'il a payé, en fait, pour vous recruter et que les contrats de 3 ans ou de 5 ans, généralement vont à leur terme. Donc, il y a une véritable mainmise des individus qui peuvent être, alors, des individus, mais aussi des personnes morales sur toute la main-d'œuvre immigrée, que vous soyez travailleur népalais sur un chantier de construction ou PDG de Total ou d'Esso au Qatar. Vous avez besoin d'un sponsor pour travailler dans ces pays.
Et est-ce que le sponsor, le parrain, touche des royalties ?
Alors, le parrain touche des royalties. C'est généralement les entreprises qui le règlent, mais c'est aussi une manière pour les citoyens qataris de se constituer une manne très facilement en vendant des droits de travailler à des entreprises qui ont besoin de recruter.
Alors justement, le Qatar a aboli la kafala en 2016 officiellement. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans les faits ?
Alors ça c'est...
Ou est-ce un effet d'annonce ?
Oui, je crois que c'est vraiment un effet d'annonce. Je me suis pas mal replongé là-dedans. Donc ils ont dit qu'ils avaient aboli le système de la kafala en le remplaçant par un système comme le nôtre basé sur un contrat de travail entre un employeur et un employé. Il n'empêche que de 2016 à septembre 2018, il était toujours quasiment impossible de changer de travail sans l'accord du parrain, du sponsor. Et puis, il existait jusque septembre 2018 ce qu'on appelait un exit permit, ou il fallait demander une permission pour sortir du pays, et cette permission, elle était accordée ou pas par le sponsor. Donc c'était quand même, on restait quand même dans un cadre extrêmement contraignant, avec peut-être la chose la plus emblématique, c'était la confiscation des passeports par les employeurs.
C'est quelque chose qui continue.
Alors ça, c'est quelque chose qui vient, là, il y a quelques semaines, d'être remis en question. Enfin, cette histoire d'exit permit, de visa de sortie. Celui-là, il était aboli. Normalement, aujourd'hui, la loi Qatari dit que tout travailleur qui souhaite sortir du pays obtient d'office et par la loi l'accord de son patron et qu'il peut sortir du pays pour se rendre à un mariage, à un deuil, à un enterrement dans son pays, etc. Mais l'employeur a quand même le droit de refuser ça à 5% de ses employés. Donc, il y a quand même un seuil qui existe. Et ensuite, c'est ce qui existe dans la loi. Après, sachant que les rapports de force sont tellement asymétriques entre employeur et employé, est-ce qu'un employé qui est en termes pas si bons avec son patron, va oser demander une sortie du territoire et à s'absenter, etc. Est-ce que le patron va vraiment l'accorder, même si la loi lui oblige ? Ça, ça reste à voir. Mais c'est vrai qu'on constate, et toutes les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International s'en félicitent, on constate quand même une amélioration des conditions du système de la kafala.
Est-ce que la visite depuis le mois d'avril de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, sur place pour essayer d'aider le Qatar à moderniser son droit du travail, est-ce que ça commence à avoir des petits effets ?
Eh bien écoutez, sans doute, mais on a envie de dire, ils sont arrivés bien tard, ils arrivent en 2018, mais sans doute que cette intégration en fait du Qatar dans les grandes instances internationales de régulation des marchés participe justement de l'amélioration des conditions au moins légales et peut-être un petit peu hypothétique, mais c'est, je dirais, on a envie de dire c'est un premier pas. Et est-ce que ça sera suivi par la suite d'effets concrets ? Ça reste à voir, mais j'imagine, je pense que c'est plutôt positif, même s'il reste encore énormément de problèmes sur le sort des ouvriers au Qatar.
Est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde et cet effet va-t-il perdurer ?
Alors, c'est certainement l'effet Coupe du Monde, oui, vous avez raison. Hein. C'est le fait que tout d'un coup le projecteur se soit braqué sur le Qatar a été bénéfique. Mais n'oublions pas que des instances ont été créées pour protéger les ouvriers de la Coupe du Monde, mais ils ne sont que 30 à 36 000 parmi les 1,9 million de travailleurs migrants au Qatar. Donc certes, c'est important de protéger les ouvriers qui travaillent pour les chantiers de la Coupe du Monde, mais ils sont extrêmement minoritaires par rapport à l'ensemble des ouvriers qui travaillent au Qatar. Donc une fois les travaux de la Coupe du Monde achevés, qui ne concernent pas uniquement les stades, hein, mais des infrastructures, des métros, des autoroutes, etc. Mais bon, d'une part, énormément de travailleurs vont rentrer chez eux une fois leur contrat fini, et ensuite les projecteurs vont se tourner ailleurs. Et qu'en sera-t-il du sort de tous ces millions, hein, ces centaines de milliers de travailleurs qui vont rester au Qatar et travailler pour l'économie hors celle de la Coupe du Monde ? Ça, l'avenir nous le dira.
Et en admettant que le Qatar puisse moderniser un peu plus son droit du travail, est-ce que cela peut avoir un effet contagion sur les pays de la région ?
Oula, ça, c'est difficile comme question. On peut que faire du wishful thinking, hein, dire espérons-le, mais ça je peux pas vraiment vous le dire.
Merci Tristan Brûlé, géographe, chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des migrations du travail.
Je vous remercie Eric Bottet.
Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. En attendant le journal, on se quitte avec le chanteur et guitariste tunisien Sabri Mosba, l'un des leaders de la nouvelle scène tunisienne émergente. Il participera au festival Cap sur les îles, qui se déroulera en Seine-Saint-Denis du 12 octobre au 11 novembre. الضحك صامت والهموم أهبال والدمع يما من المحايا إنسان كزنة تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوف الحال سمعونا نبكو شاخوا على الموال زينت بيبانو ما نسيتنا لك فال يوم مش مني يوم مش مني يوم مش مني يوم مش مني